VOA Afrique. Au micro, Idrissa Sidoudia, bonjour, le monde aujourd'hui, VOA Afrique. Les chefs d'État du G5 Sahel doivent s'entretenir ce vendredi avec leur homologue français Emmanuel Macron, alors que Paris n'a encore donné aucun détail sur la réduction de ses forces militaires dans la région où les groupes djihadistes restent toujours aussi menaçants. La présidence du Tchad a assuré jeudi que ses relations avec l'Union africaine étaient désormais apaisées à l'issue d'une visite d'une délégation de l'UA menée par son commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité, Bankole Adeoye. Les divergences sont désormais une convergence de vues et une réelle collaboration afin de mieux mener la transition au Tchad, ajoute la présidence sur son site, avec une photo de Mahamat Diby, président autoproclamé et chef de la junte au pouvoir, depuis la mort de son père, Idriss Déby Itno. En Guinée, Ismaël Condé, un élu local passé du parti au pouvoir à l'opposition, a été condamné hier à 3 ans et 4 mois de prison ferme pour offense au chef de l'État, Alpha Condé, après avoir déclaré que seules les armes pourraient le chasser du pouvoir. En Gambie, l'agence des catastrophes a indiqué hier que quelques 10 personnes ont été tuées et plus de 1 500 déplacées à la suite d'une tempête qui s'est abattue sur la Gambie mercredi soir. En République démocratique du Congo, une proposition de loi prévoyant d'exclure de l'élection présidentielle les candidats ayant un parent étranger a été déposée ce jeudi à l'Assemblée nationale, a appris l'AFP de son initiateur Noël Tchani. Le camp de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, né d'une mère congolaise et d'un père grec, est candidat potentiel à la prochaine présidentielle prévue fin 2023, a dénoncé cette initiative. La situation sanitaire est catastrophique en Tunisie, qui a enregistré ces dernières semaines un nombre record de contaminations au COVID-19, a annoncé jeudi la porte-parole du ministère de la Santé, évoquant l'effondrement du système sanitaire. Face à la situation, la Libye voisine a décidé hier de fermer ses frontières et de suspendre les vols avec la Tunisie pour une semaine, a affirmé un porte-parole du gouvernement libyen. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique a connu une augmentation en flèche du nombre de cas de COVID-19. L'OMS a cependant noté jeudi des progrès dans la distribution des vaccins sur le continent. Le docteur Machidiso Moiti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, a appelé les pays africains à mettre à profit la période actuelle pour planifier la multiplication des sites de vaccination et sensibiliser les populations à avoir davantage confiance dans les vaccins. Pfizer-BioNTech préconise une 3e dose de son vaccin pour en augmenter l'efficacité au moment où le très contagieux variant Delta provoque des flambées épidémiques en Asie et en Afrique et fait remonter le nombre de cas en Europe et aux États-Unis. Pour l'instant, pas besoin d'un rappel supplémentaire pour les Américains complètement vaccinés, selon les autorités sanitaires américaines. En Haïti, l'étau s'est resserré hier autour des assassins du président Jovenel Moïse, la police ayant annoncé l'arrestation de 15 Colombiens et de 2 Américains d'origine haïtienne, tandis que la controverse montait dans le pays au sujet du rôle de la police et de la légitimité de l'exécutif de transition. De son côté, le ministre colombien de la Défense a déclaré qu'au moins 6 des mercenaires appréhendés seraient d'anciens militaires colombiens. Et Taipei a fait savoir vendredi que 11 suspects avaient été arrêtés dans le complexe de l'ambassade de Taïwan à Port-au-Prince où ils étaient entrés par effraction. Afghanistan, les talibans affirment avoir pris le contrôle du plus important poste frontière avec l'Iran situé dans la province de Herat. Pour sa part, le président Joe Biden a défendu jeudi le retrait des troupes américaines de ce pays, affirmant qu'il n'était pas inévitable de voir le pays tomber aux mains des talibans malgré les combats faisant rage dans le nord-ouest du pays entre l'armée régulière et les insurgés. La suite de nos informations. Le Burkina Faso veut renforcer la surveillance dans ses deux plus grandes villes. 900 caméras vont être installées à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, dans ce pays en proie à des violences djihadistes récurrentes. Le point avec Abdourahman Dia.
Le ministre de la Sécurité a indiqué que le système dénommé Smart Burkina sera déployé sur 220 sites dans la capitale burkinabé et 80 à Bobo-Dioulasso. Le projet, financé par un prêt de la Chine, a été lancé hier jeudi. L'objectif est de donner aux forces de sécurité les moyens de pouvoir détecter les zones criminogènes et de suivre les délinquants, a souligné le premier ministre burkinabé Christophe Dabiré. Les deux villes seront ainsi dotées d'un système de vidéoprotection et d'un système de radiocommunication professionnelle, nous dit un communiqué du ministère de la Sécurité. Smart Burkina coûtera près de 52 milliards de francs CFA et sera mise en œuvre par les entreprises chinoises Huawei et la CITCC. Mais une fois que le projet sera réalisé, la partie burkinabé, en tant que seul bénéficiaire, va gérer de manière indépendante et autonome toutes les données et toutes les installations issues de ce projet, selon l'ambassadeur de la Chine au Burkina Faso, Li Jian. Le Burkina Faso, particulièrement dans les régions du nord et de l'est, est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait plus de 1500 morts et contraint près de 1,5 million de personnes à fuir leur foyer depuis 2015.
Né officiellement le 9 juillet 2011, le Soudan du Sud fête ses 10 ans d'indépendance ce vendredi. Aucune célébration officielle n'est prévue. Les autorités ont ordonné à la population de fêter cette journée en privé, officiellement en raison du Covid-19. Yacouba Ouedraogo fait le point.
Le président Salva Kiir a ordonné aux citoyens de célébrer dans leur propre maison en raison des inquiétudes liées à la pandémie. Le vice-président de l'information, Baba Medan, affirme que M. Kiir va tenir un discours au public pour que tout le monde le voie sur sa télévision ou l'entende sur sa radio. Initialement annoncé, la prestation de serment des députés du Parlement reconstitué, dont la composition a été annoncée fin mai, a été reportée. Le seul événement public annoncé est une course de 10 km baptisée le Great South Sudan Run qui aura lieu à Djouba. Le Soudan du Sud a bénéficié de milliards de dollars de soutien financier depuis que son peuple a voté pour la sécession du Soudan lors d'un référendum en 2011. Fin 2013, le pays a plongé dans une guerre civile sanglante entre le président Salva Kiir et son vice-président et rival Riek Machar. Les 5 années de conflit ont tué plus de 380 000 personnes et déplacé 4 millions d'autres. Kiir et Machar dirigent actuellement un gouvernement d'unité créé après un accord de paix en 2018. Le grand défi auquel le Soudan du Sud fait face, c'est de recréer le sens de l'unité et de l'espoir qui prévalait il y a 10 ans, ont déclaré dans un communiqué les États-Unis, la Grande-Bretagne et la Norvège.
L'Afrique est entrée hier en compétition au Festival de Cannes avec un film tchadien sur l'avortement et l'excision, mettant en scène des femmes unies pour survivre dans une société ultra-conservatrice, Nathalie Barge.
Lingui, les liens sacrés de Mahamat Saleh Haroun, qui avait reçu le prix du jury en 2010, est l'un des deux films africains en lice aux côtés de Haut et Fort du Marocain Nabil Ayouch. Applaudi de longues minutes à l'issue de la projection, le réalisateur tchadien s'est remémoré le temps où il rêvait d'être ici même. Son film dresse un portrait fort de femmes seules, marginalisées, surveillées, qui tentent de survivre dans un milieu hostile où règne le patriarcat. Filmé dans les faubourgs de N'Djamena, il raconte l'histoire d'Amina, mère célibataire, dont la fille de 15 ans, Maria, tombe enceinte après un viol dans un pays où l'avortement est condamné par la religion et la loi. Amina fait le choix de lutter contre sa propre foi et les préjugés pour aider sa fille. Pour Mahamat Saleh Haroun, son film ne traite pas seulement de la question de l'avortement. C'est un film sur les héroïnes du quotidien. Ce sont elles qui portent le monde, qui les maintient dans une forme de domination, souligne-t-il. Et d'ajouter, en tant qu'homme, je fais partie du patriarcat, mais on arrive toujours, en tant qu'individu en conscience, à se débarrasser de tout ce qu'on a eu en héritage. Il faut croire en cette possibilité que l'homme puisse changer.
La Minute Éco, Nanit Kalani.
Au Nigeria, la croissance devrait rebondir à 1,8% en 2021 sous réserve d'une hausse des prix du pétrole et de réformes structurelles. L'Afrique du Sud devrait connaître une croissance de 3,5%. En Angola, l'économie devrait atteindre 0,5% soutenue par la hausse des prix pétroliers et des dépenses publiques. Le PIB des autres pays africains exportateurs de produits industriels devrait grimper à 2,4%. Les économies exportatrices de produits agricoles devraient croître à 4,5%. Les transferts d'argent des Marocains vivant à l'étranger vers leur pays ont fortement augmenté pendant la pandémie pour s'établir à 6,5% du PIB l'an dernier, soit 7,4 milliards de dollars. Face à l'importance de ces envois et soucieuse d'améliorer l'inclusion financière de la population, la Banque centrale du Maroc a récemment lancé l'initiative Greenback pour renforcer l'efficience du marché des transferts du fonds en vue de réduire leurs coûts. Terminons par l'effondrement de certains services écosystémique qui pourrait causer au PIB mondial une perte de 2700 milliards de dollars par an d'ici à 2030, estime la Banque mondiale. L'Afrique subsaharienne est l'une des deux régions au monde où ce déclin provoquerait la plus forte contraction annuelle du PIB réel avec 9,7% de perte de croissance. Cela s'explique par la dépendance de l'Afrique à l'égard des cultures pollinisées, des produits forestiers et à une faible capacité à évoluer vers d'autres modes de production et de consommation. La Banque mondiale appelle les États à protéger la nature pour prévenir la perte.
Merci Nanit. Et maintenant les sports avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Il n'y aura pas de spectateurs sur les sites des Jeux Olympiques à Tokyo. Les JO se dérouleront du 23 juillet au 8 août à huis clos sur les sites de la capitale japonaise, Bagasikura.
Oui, l'annonce a été faite par la ministre des JO, Tamayo Marukawa, qui évoque la recrudescence du coronavirus dans la capitale japonaise.
Lors de la réunion à 5 avec le CIO, l'IPC, le comité d'organisation de Tokyo 2020, le gouvernement de Tokyo et le gouvernement national, il a été décidé de n'avoir aucun spectateur sur les sites de Tokyo après l'annonce d'un nouvel état d'urgence virale dans la ville de Tokyo.
La plupart des sites des JO sont situés dans la capitale japonaise, mais certaines épreuves se déroule dans d'autres départements. Ces derniers prendront aussi des mesures concrètes en lien avec les organisateurs. Cette annonce intervient quelques heures après la décision du gouvernement nippon de remettre en place un état d'urgence sanitaire à Tokyo à compter de lundi jusqu'au 22 août. La ville recense chaque jour environ 900 cas de COVID-19.
Plus tôt dans la journée, nous avons tenu une réunion au siège de la réponse au COVID-19 et nous avons décidé de déclarer l'état d'urgence à Tokyo et nous avons prolongé l'état d'urgence à Okinawa jusqu'au 22 août.
À peine 15% de la population a été entièrement vaccinée jusqu'à présent. Le variant Delta, plus infectieux, représenterait désormais 30% des cas. Le Premier ministre veut parer à une augmentation des cas de contamination. Le relais de la flamme olympique se déroulera donc à huis clos à partir de vendredi dans la capitale japonaise. Quelque 11 000 sportifs sont attendus au JO de Tokyo.
Merci Bagassi. Transfert, Sergio Ramos rejoint le Paris Saint-Germain pour 2 saisons. L'annonce est faite par le club parisien qui offre ainsi un dernier défi à l'emblématique défenseur espagnol de 35 ans, parti du Real Madrid à contre-cœur. Avec le champion du monde 2010 et double champion d'Europe 2008 et 2012 qui arrive libre, le club de la capitale française embauche une icône du football espagnol, quadruple vainqueur de la Ligue des Champions. Ramos est un rare défenseur buteur qui assumait dernièrement la responsabilité de tirer les pénaltys au Real et compte 101 buts inscrits en 671 matchs avec le club madrilène. Transfert toujours, Diego Simeone a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Annonce le club champion en titre de Liga. El Colo, arrivé en décembre 2011, débutera le 13 août prochain sa 11e saison sur le banc de l'Atlético Madrid. Il y a remporté 316 matchs sur 527, soit plus que n'importe quel autre entraîneur du club. Il a surtout soulevé 8 titres, dont 2 de Liga en 2014 et 2021 et 2 Ligue Europa en 2012 et 2018. Il a atteint à 2 reprises la finale de la Ligue des Champions en 2014 et 2016, perdu 2 fois contre le Real Madrid.
Merci Yafkouba. Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Mali, à quelques semaines de la fête de Tabaski, les marchés à bétail de la capitale Bamako commencent à faire le plein. Par peur des hausses des prix de dernière minute, des citoyens anticipent leur achat. Mais le constat sur place est que les prix sont encore élevés. Reportage au marché à bétail de Faladier avec notre correspondant Mohamed Dagnoko.
Cette scène de marchandage se déroule au marché à bétail de Faladier en commune 6 du district de Bamako. Venu très tôt acheter le mouton de la fête de Tabaski pour éviter les hausses de prix de dernière minute, Moussa Kone se rend compte que les prix sont élevés. Je suis venu très vite acheter un mouton, croyant que j'allais bénéficier des prix abordables. Mais je me rends compte que les prix n'ont pas changé entre l'année dernière et cette année. Si les prix restent inchangés, on va certainement se mettre à plusieurs pour acheter un bœuf et se partager la viande le jour de la fête. Je voulais un mouton de 100 000, mais tout ce qu'on me propose jusque-là sont au-delà de cette somme. Ce prix jugé élevé par les acheteurs est dû, selon les vendeurs, au coût de l'aliment bétail et des conditions de transport de moutons des régions du centre vers la capitale Bamako. C'est très difficile pour nous. Nous vendons souvent à perte. L'aliment bétail coûte très cher de nos jours. Le sac de tourteau coûte 10 000 francs CFA et les conditions dans lesquelles nous acheminons les bêtes vers la capitale sont de plus en plus difficiles. Tout ça se répercute sur le prix à la vente. Si l'exportation du mouton vers les pays frontaliers sont souvent des explications à la flambée des prix, ils sont nombreux à espérer sur les opérations Tabaski organisées par l'administration qui permettent aux citoyens de se procurer le mouton à moindre coût. Mohamed Dagnoko, VOA Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
En Guinée, la récente libération de prisonniers ne doit pas faire oublier le maintien en détention de près de 60 autres. C'est ce qu'affirme Amnesty International, qui déclare que beaucoup ont été arrêtés dans le contexte de la contestation de l'élection présidentielle d'octobre dernier. Tout en saluant l'avancée des procédures judiciaires, Amnesty International appelle les autorités guinéennes à se pencher sur le cas de ceux qui sont encore détenus sans procès. Yacouba Ouédraogo, adjoint à Dakar au Sénégal, Fabien Hoffner, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale.
Les questions de l'ensemble des personnes qui ont été interpellées suite et pendant la période électorale, on n'a pas de données précises, tout simplement parce que aucune donnée précise n'est disponible. En octobre 2020, le procureur général de la Cour d'appel de Conakry avait annoncé l'interpellation de 325 personnes, des libérations qui se sont faites discrètement après certaines négociations. Donc on n'a pas de données exactes sur la situation actuelle du nombre de personnes détenues en lien avec la période électorale et post-électorale. Mais en revanche, et ce qui est une bonne chose à souligner, c'est que cette ordonnance de renvoi datée du 29 avril 2021 que nous évoquons dans le communiqué permet d'avoir une idée plus précise sur un certain nombre de personnes qui avaient été arrêtées, 97 en détention provisoire, donc depuis octobre dernier. On sait que 40 ont bénéficié d'un non-lieu et que 57 autres ont été envoyés devant le tribunal.
Pourquoi, selon vous, certains ont été libérés et pas d'autres ?
Alors, il y a deux procédures différentes qu'on évoque dans le communiqué. Il y a la question de la bordée grasse. Il y a quatre personnes qui ont été graciées par le chef d'État guinéen. Une dont la situation remontait à quelques années précédentes. Et trois qui sont des opposants politiques. Ce qu'on sait sur le contexte, c'est que ces personnes qui ont été graciées sont aussi les personnes qui ont demandé pardon au chef d'État et présenté des excuses. D'autres détenus qui n'ont pas demandé pardon n'ont pas été libérés. En parallèle à ça, il y a le non-lieu, donc qui concerne plusieurs dizaines de personnes qui ont été libérées tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'éléments de preuve pour les inculper. Ce qui pose la question de toutes ces personnes qui ont passé de longs mois en détention provisoire, arrêtées dans la rue, dans des circonstances plus ou moins arbitraires et détenues pendant de longs mois sans qu'aucune charge n'ait été retenue contre eux.
Vous évoquez également le cas de certains détenus dont la santé serait fragile. Qu'en est-il exactement ?
Concernant la santé des détenus, ça ne date pas d'hier. C'est un problème qu'on constate depuis plusieurs mois. Et à la fin de l'année 2020, Amnesty International avait documenté et communiqué sur la mort en détention de sympathisants et d'opposants politiques, ce qui est d'une gravité extrême. Donc on est aujourd'hui dans un pays où des détenus, des opposants politiques sont morts en détention. Le ministère de la Justice a communiqué régulièrement sur la santé de certains détenus dont la situation qui se dégradait était rapportée dans les médias ou par leurs avocats ou par leurs proches, mais communiquer ne suffit pas. On a des personnes qui sont régulièrement malades. Où Marcilla a été hospitalisée à plusieurs reprises, contrainte de sortir de sa cellule pour être hospitalisée dans les cliniques de la ville. Il y a également certains détenus de l'opposition de l'UFDG qui sont des personnes âgées. Il y a une personne qui a plus de 70 ans qui est également malade. La haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies avait fait un appel aux autorités mondiales en cette période de pandémie de Covid-19 qui est loin d'être terminée, de faire preuve de mansuétude et d'humanisme en libérant les personnes faibles, malades et notamment les personnes âgées. Et c'est un appel auquel n'ont pas répondu les autorités guinéennes, donc qui libèrent les personnes qui demandent pardon mais maintiennent en détention des personnes dont la santé demeure inquiétante.
Fabien Hoffner, chercheur au bureau régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, joint à Dakar.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, opération d'assainissement des espaces publics encombrés par les installations anarchiques dans Libreville et les communes voisines. Les commerces sont détruits au bulldozer par les forces de l'ordre. Cette initiative, qui n'est pas la première du genre dans la capitale gabonaise, est toujours diversement appréciée. Reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Le gouvernement de la République va entreprendre. Ce communiqué du ministère gabonais de l'Intérieur donnait la veille autour d'une opération à la pelleteuse des forces de l'ordre contre les étals sur les trottoirs. Et comme il fallait s'y attendre, les lamentations des victimes de la casse n'ont pas tardé.
Dans ce marché, c'est dedans là où on paye les maisons, c'est dedans là où il y a les futurs cas du Gabon sort, c'est dedans là où nous-mêmes on se munit, on paye les maisons, on paye tout. Autant qu'ils sont en haut là-bas, là, ceux qui prennent les décisions là, eux, ils le savent à 100%.
Pour certains usagers de la voie publique, l'opération en cours est à saluer, car il était temps.
Lorsque les commerçants sont aux abords des trottoirs, vraiment, nous les piétons, nous avons du mal à circuler.
Je trouve que c'est une bonne initiative de la municipalité, parce que on ne peut pas vendre à des lieux dits publics. C'est pas normal.
Sans répit, les engins avancent dans tous les sens des trottoirs. Quelques commerçants tentent de sauver ce qui peut l'être encore devant les regards impuissants des transports urbains, eux-mêmes visés par l'action d'assainissement.
Nous appuyons aussi la décision du gouvernement de l'établissement. Mais en revanche, nous disons au gouvernement de construire des marchés. Et construire des marchés parce que on ne peut pas déguerpir les mères et pères d'une famille et pour laisser à la belle étoile.
Les commerçants justifient l'occupation du moindre espace communal par l'insuffisance des marchés municipaux. Mais cet argument ne convainc pas la mairie qui supervise l'opération sur le terrain. Serge Williams Akasaga, maire adjoint de Libreville.
C'est vrai qu'il n'y a pas assez de marchés, mais il y a des marchés qui sont vides. On commence par les occuper. Ensuite, pour ceux qui n'ont pas d'espace, on peut convenir d'une occupation partielle. On ne peut pas ériger un marché permanent dans des endroits comme ceci. C'est pas possible. C'est l'acheteur qui va vers le besoin. Peu importe où le besoin se trouve, l'acheteur ira toujours. Nous n'avons pas amené les marchés dans des endroits non autorisés.
Chaque vendeur payait 1000 francs CFA par jour. Ils sont des milliers à avoir été déguerpis dans le cadre de cette opération prévue pour durer un mois. Libreville, Ismaël Obianzé pour VO Afrique.
Le Soudan du Sud, le pays le plus jeune du monde, né officiellement le 9 juillet 2011, célèbre aujourd'hui ses 10 ans d'indépendance, marqués par des conflits, les difficultés économiques, l'instabilité sociopolitique, les guerres civiles, la famine, des inondations et des maladies. Aucune célébration officielle n'est prévue pour plusieurs raisons. Le pays reste confronté à plusieurs défis, dont celui de recréer le sentiment d'unité, de force et d'espoir qui prévalait il y a 10 ans. Nani Talani a joint Roland Marshall, chercheur à Sciences Po Paris, mais qui séjourne actuellement à Nairobi, au Kenya.
On est dans une situation qui reste extraordinairement précaire, avec une solution politique qui vient, dans les 3 dernières années, de faire des avancées, mais qui reste extrêmement fragile. La tension reste perceptible, et surtout en province, dans le Sud-Soudan, il y a de nombreux des affrontements qui ne sont pas des affrontements toujours très politiques, mais qui manifestent la présence de différents groupes armés qui restent non organisés, non structurés et non intégrés et contrôlés par l'État. Il y a un accord au sommet qui vaut ce qu'il vaut, il y a des institutions qui peinent à se mettre en place depuis 10 ans, et il y a une population qui quand même souffre beaucoup. La pauvreté a augmenté depuis l'indépendance, hein, on est passé de 50 à 80%. Malgré tout, dans ce qu'on peut estimer de l'opinion publique sud-soudanaise, personne ne regrette l'indépendance, hein, même si celle-ci, pour l'instant, a bien du mal à se traduire par une amélioration de la situation quotidienne de l'essentiel de la population.
Personne ne regrette l'indépendance. Toutefois, le pays reste miné par les conflits, tout ce que vous venez de dire, l'incertitude économique, la famine, l'instabilité sociopolitique, les guerres, la famine. Est-ce parce que l'indépendance de ce pays a été mal préparée que tout cela persiste?
Oui, évidemment, et en même temps, il faut bien dire que c'était quand même très compliqué. D'abord, l'étage de l'indépendance, notamment la construction d'un appareil d'État, beaucoup de gens, et notamment aux États-Unis, ont pensé qu'il s'agissait de la reconstruction, une instabilité sécuritaire qui a beaucoup pesé, avec une absence totale de volonté de Khartoum d'aider à la construction d'un appareil d'État. Le projet politique et social de l'après-indépendance n'a jamais été préparé et n'était même pas toujours très clair dans l'esprit, souvent de commandants locaux et évidemment des combattants. Donc évidemment, quand tout d'un coup il a fallu administrer des zones, mettre en place des politiques publiques, bon, bah, tout ça a semblé extrêmement difficile.
Qu'en est-il de l'appui de la communauté internationale?
La communauté internationale a fait beaucoup d'efforts, notamment les États-Unis. Mais d'un autre côté aussi, dépenser de l'argent, c'est une chose. Suivre de façon réaliste les problèmes, être un partenaire, être un ami qui soutient. Et là, de ce point de vue-là, on peut dire que la communauté internationale a failli entre la signature de ce qu'on appelle Comprehensive Peace Agreement hein, en janvier 2005 et l'indépendance du Sud-Soudan en juillet 2011.
Est-ce qu'il y a des chances que le Soudan du Sud devienne un pays normal?
Je crois beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Sud-Soudan estime que la première génération, comme c'est d'ailleurs un peu le cas pour l'Érythrée, hein, sera une génération perdue, au sens où ces gens-là vont quand même souffrir encore beaucoup, parce que les problèmes là qu'on dit, qu'aujourd'hui on décrit entre Nuer et Dinka, ou entre Riek Machar et Salva Kiir, hein, je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille voir les choses, mais enfin, c'est la façon dont on décrit ces problèmes le plus souvent. Ça va malgré tout durer, même si aujourd'hui on est dans une phase un peu moins difficile qu'après 2013. Et évidemment, ça va prendre beaucoup de temps. Faire rentrer dans la logique des acteurs armés le fait qu'il y a une population qui a des droits, que eux, mouvements armés ou combattants, n'ont pas seulement des droits, ils ont aussi des devoirs.
et ces élections dont les partenaires du Soudan du Sud veulent la préparation, pensez-vous qu'elles pourraient changer la donne?
Comme toujours, on gagne du temps, c'est-à-dire qu'on va préparer une constitution pour aller aux élections qui sont maintenant prévues pour 2023. Et encore une fois, je crois que c'est pas le juridisme qui sauvera le Sud-Soudan de l'hostilité, c'est la reconstruction d'un tissu social.
Roland Marshall, chercheur à Sciences Po Paris, joint à Nairobi au Kenya, où il séjourne actuellement. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sidoudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA.